Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église, la Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Vous savez, ce genre de thématiques, ce genre de sujets sont tellement importants. Libérer son potentiel. Hier, on a beaucoup insisté là-dessus. Hier, on est rentré, on a commencé à rentrer en profondeur. On a touché plusieurs points. Par la grâce de Dieu, on a été bénis. Dieu a inspiré sa parole. Dieu nous a fait du bien. Et je suis très, très heureux de nous voir là. Ce thème pour l'organisation de cet événement, On a communiqué à la télévision, on a communiqué à la radio, on a communiqué sur Facebook. Et il y a des gens, je vous assure, qui ont vu la com, ont vu la publicité, mais ça ne leur a pas parlé. Vous savez pourquoi ça ne leur a pas parlé? Parce que tout simplement, il n'y a pas en eux cette soif-là de faire sortir ce qui est en eux. Parce que je vous assure, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Et à Libreville, dans notre ville, dans notre pays, je vous assure, ce n'est pas tous les jours qu'on aborde ce type de sujet. Pourtant, quand on ouvre la Bible, ce sont des sujets au travers de paraboles et d'enseignements que Jésus-Christ abordait régulièrement. Et pourquoi libère ton potentiel? Parce que tout simplement, libère ton potentiel, c'est le premier ordre, c'est la première parole que Dieu a donnée à l'homme. Lorsqu'il lui a dit, soyez féconds. Et c'est ce que nous avons dit ici hier, que la toute première parole que Dieu a donnée à l'homme et la femme lorsqu'il les a créés, c'était soyez féconds, qui veut simplement dire soyez productifs, soyez fructueux. C'est pour cela que les anglophones ont traduit dans leur Bible « be fruitful », c'est-à-dire « sois fructueux, porte du fruit ». Et l'ordre que Dieu donnait à l'homme et à la femme était simplement une suite logique de ce qu'il avait déjà fait avec la création et les animaux. Lorsque Dieu crée la terre, les mers et l'étendue des cieux, il dit que l'étendue des cieux produise des luminaires de toutes sortes. Que la terre produise des végétaux et des animaux de toute espèce. Que les mers produisent des poissons de toute espèce. Et la terre produisit des animaux de toute espèce, etc., etc. Sixième jour, il arrive à l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne le même ordre. Sois fructueux. Porte du fruit. C'est pour cela que dans beaucoup d'épisodes dans les évangiles, Jésus-Christ venait souvent et se plaignait du fait qu'on ne porte pas de fruits. Vous ne vous rappelez pas un jour où Jésus marchait avec ses disciples Et il dit, il eut faim. La Bible dit qu'il eut faim et il alla vers un arbre. Et lorsqu'il vint, l'arbre n'avait pas de fruits. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a maudit l'arbre. Que plus jamais de fruits ne sortent de toi. Et le lendemain, quand ils sont repassés, les disciples ont vu que l'arbre avait séché. Ils ont dit, oh Seigneur, regarde, l'arbre a séché. Si vous aviez une foi, ne serait-ce que petite comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, etc., etc. Pourquoi il avait maudit l'arbre? Parce que tout simplement, l'arbre n'avait pas de fruits. Et Dieu est comme ça. J'ai aussi pour habitude de dire que Dieu est le plus grand investisseur que l'on connaisse. Dieu est un investisseur. Vous voyez, quand vous allez dans les salles de marché, comment les gens sont là, ils parient, il y a tout un bruit, etc. Avec les... Je prends, allez, achète, vends, achète, vends, achète, vends, achète. Ce sont les investisseurs qui les motivent derrière. Et Dieu est le plus grand de tous les investisseurs. Vous savez quel investissement il a fait en nous? Il a mis son esprit. Il s'est mis lui-même en nous. Il a mis sa personne. Il a mis sa marque. Il a mis son sceau. Il a mis son logo. C'est ce qu'il a mis en nous, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire avec moi le Saint-Esprit? Et Paul nous dit dans Romains 8, 11 que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors il donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Pourquoi Paul précise il donnera la vie? Le mot vie ici, V-I-E, c'est un mot grec derrière que l'on prononce Zoé, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie de Dieu. Et quand il dit cette vie donnera, cet esprit donnera la vie à vos corps mortels, il dit quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie que tu peux rencontrer, si le Saint-Esprit habite en toi, il y a dans l'alliance que nous avons avec Christ, c'est-à-dire la Bible, il y a une promesse que l'on appelle la guérison divine et tu es censé expérimenter et connaître cette guérison divine à cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc c'est très important de comprendre la parole. La plus grande crise que l'on rencontre dans l'Église aujourd'hui, je l'ai dit hier également, c'est une crise identitaire. Ce sont des enfants de Dieu qui viennent à l'Église mais qui ne savent pas qui ils sont. Ce sont des personnes qui viennent dans un lieu de prière et qui se limitent juste à prier un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Hier, j'ai insisté énormément sur l'un des noms que l'on donne à Dieu. Je n'ai pas envie de trop m'étendre sur le résumé d'hier, parce que ce que j'ai envie de dire aujourd'hui est assez long, et j'ai envie qu'on finisse à l'heure, donc il ne faut pas que je traîne trop sur ce qu'on a dit hier. Mais l'un des noms de Dieu, Dieu a plusieurs noms. Il a Jéhovah, il a Yahweh, il a Jéhovah, Shammah, Rapha, Tikenu, tous ces noms-là, etc., Shiloh, tout ce qu'on veut. Mais il a une particularité de nom qui lui sont propres. Le premier, c'est omniscient. Le deuxième, c'est omniprésent. Et le troisième, c'est omnipotent. Est-ce qu'on peut dire avec moi omni? Potent. Le mot omni, on l'a dit ici hier également, que le mot omni vient d'un mot hébreu qui veut simplement dire tout. Tout. T-O-U-T. Tout. Et potent veut simplement dire potentiel. Est-ce qu'on peut dire avec moi potentiel? Il est le Dieu omnipotent. Potent, c'est-à-dire le Dieu tout potentiel. Quand Dieu vient voir Abraham et qu'Abraham a 99 ans et Dieu vient cogner à sa porte une nuit, Dieu vient s'adresser à Abraham et Dieu dit « Abraham, je suis le Dieu tout puissant. » Genèse 17. Non, attendez. Dieu, quand Dieu vient, il prend la peine de se présenter. Vous savez pourquoi Dieu prend la peine de se présenter? Parce qu'il veut que tu saches à qui tu as affaire. Il veut que tu saches à qui tu as affaire. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu omniprésent. Je suis le Dieu omniscient qui sait toutes choses. Passé, présent, futur. Je suis le Dieu omnipotent, le Dieu tout-potentiel. Le mot impossible est un vocabulaire qui n'existe pas dans le ciel. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu, dit Jésus dans Marc 9, 23. Et il dit, je suis le Dieu tout-puissant, Abraham. L'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Regardez la réponse d'Abraham. Oh Seigneur, Sarah ne peut pas avoir d'enfant et moi je suis avancé en âge. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer, mon serviteur. Dieu dit, Abraham, je viens de te dire qui j'étais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants de Dieu qui sont dans l'église. quand ils se tiennent debout, quand ils adorent, quand ils louent, quand ils prient, ou quand ils traversent toutes sortes d'expériences avec Dieu dans la vie, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Les enfants de Dieu ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est la raison principale pour laquelle l'Église aujourd'hui n'exerce pas son influence dans ce pays. Oh, je vous assure, quand vous entendez des histoires à Libreville, crimes rituels, on a retrouvé des corps sur la plage, etc. Oh, il y a trop de choses bizarres dans le pays, il y a ceci et cela. Pendant ce temps, l'Église est où? L'Église est en train de faire du bruit dans des bâtiments à gauche, à droite. Pendant ce temps, les ténèbres règnent dans le pays. Pourquoi les ténèbres règnent dans le pays? Parce que l'Église ne joue pas son rôle. L'Église n'occupe pas sa place. Et Dieu met les mains sur la tête. Et Dieu dit, mais c'est vous l'Église qui êtes censé mettre de l'ordre. La raison principale pour laquelle Jésus-Christ n'est pas revenu, c'est parce qu'il a laissé l'Église sur terre. Et c'est l'Église qui est son corps. Et c'est l'Église qui est censée être la lumière du monde. Amen. Et Dieu dit, cette Église-là est le corps de Christ. Quand vous prenez le temps de lire le livre de Colossiens, chapitre 1 et 2, Paul prend la peine d'écrire verset par verset qui est Christ. Et quand vous lisez ces passages-là, je vous assure, ça remonte tout simplement du surnaturel. Et ce Christ-là, il dit, il est la tête de l'Église. Donc, et l'Église est son corps. Est-ce qu'on peut séparer ma tête et mon corps? On ne peut pas. Ma tête et mon corps sont un. Tout simplement. Et s'il est tout puissant, l'Église est toute puissante. Tout simplement. Et le Saint-Esprit est là pour nous le rappeler. Et c'est pour cela que nous, l'Église, nous, enfants de Dieu, on doit recommencer à occuper notre position. Paul a dit dans le livre de Éphésiens que Christ, lorsqu'il est ressuscité, Éphésiens 2, lorsqu'il est ressuscité, il nous a ressuscité ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble à la droite de Dieu. C'est pas ce qui est écrit. Il nous a fait asseoir ensemble à la droite de Dieu. Donc, s'il nous a fait asseoir ensemble avec lui à la droite de Dieu, à partir de maintenant, ce que j'ai envie de dire à l'Église, c'est arrêtez d'opérer selon votre condition, selon les circonstances, selon l'atmosphère, selon ce qu'on dit de vous. Commencez à opérer dans le pays selon votre position en Christ. Ni plus ni moins. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu te tiens dans la prière, tu es là, tu pries. Une fois, j'étais en train de prier et il y avait quelqu'un qui m'entendait prier. Et puis, la manière dont je priais, il dit, ah gars, la manière dont tu pries là, c'est bizarre. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un prier comme ça. Parce que quand je priais, lui, il prie, oh Seigneur, oh merci Seigneur, Seigneur, merci pour pardonner mes péchés, etc. C'est toujours la même prière. Moi, quand je priais, j'avais déjà passé cette phase-là. Moi, j'étais Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le ministère des anges est en action, est en mouvement maintenant avec moi. J'ordonne maintenant à toute l'armée des cieux et à toute la création d'être en harmonie avec moi pour accomplir les desseins de l'Éternel dans ma vie. Je déclare que les arbres, les animaux, tout travaille en harmonie avec moi pour faire avancer les plans de Dieu dans ma vie. J'ordonne que le temps soit clément, car aujourd'hui j'ai des rendez-vous et aucune circonstance naturelle ne m'empêchera d'atteindre ces rendez-vous. Au nom de Jésus, il dit, tu pries comment toi? Ça, c'est quelle façon de prier? J'ai dit, je prie parce que je prie depuis ma position. Je suis Christ. C'est pour ça que j'ai aimé une phrase d'un pasteur un jour que j'écoutais. Il a dit, nous sommes l'extension de Christ sur terre, son corps. Tout ce qu'il fait au ciel, nous faisons la même chose sur la terre. C'est pour cela que Christ, on en parlait tout à l'heure, Christ dit à ses disciples, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, il dit, Pierre, sur cette déclaration, je bâtirai sur toi mon église et je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux. Tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Notre vie est entre nos mains. Ce n'est pas la faute de Dieu ce qui se passe, c'est notre faute à nous-mêmes. Amen. Donc on a pris le temps de dire qui était ce Dieu-là, omnipotent, le Dieu tout potentiel. Donc, hier, je nous encourageais qu'au sortir d'ici, quand on rentre chez nous et quand on commence à opérer dehors, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans nos circonstances à titre personnel, je vous assure, prenons toujours le temps de nous souvenir qui est ce Dieu-là. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la porte qui doit s'ouvrir dans ta vie, quelle que soit l'opportunité que tu es en train d'attendre, Sache que c'est le Dieu tout potentiel qui habite en toi. Si tu es patient, humble, fidèle et consacré, je t'assure, Dieu te récompensera le moment venu. Et particulièrement si tu travailles pour l'avancement de son royaume. Qu'est-ce que le potentiel? On l'a défini rapidement. Le potentiel, on a dit, c'était toutes les aptitudes dormantes, toutes les capacités en sommeil qui sont en nous, des talents cachés pas encore révélés au grand jour, des réserves de puissance non utilisées, des réussites encore non manifestées, des victoires pas encore remportées. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux être, mais que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux faire, mais que tu n'as pas encore fait. Ou encore tout ce que tu peux accomplir, que tu n'as pas encore accompli. Le potentiel, ce sont toutes ces victoires que tu es appelé à remporter, que tu n'as pas encore remportées. Elles sont déjà là. Tout ce qu'elles attendent, c'est que tu te lèves et que tu commences à travailler. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Lorsque tu regardes quelqu'un, sache que ce que tu vois n'est pas la vérité. Ce que tu vois n'est qu'une apparence. Ce que tu vois n'est qu'une apparence. La vérité, si par exemple tu vois un enfant devant toi de 5 ans, tu vois Noé qui est là. En apparence, tu as devant toi Noé, un enfant de 4-5 ans. Mais Dieu te dira que la vérité, c'est que c'est peut-être le futur président de la République de ce pays. Voici ce que tu ne vois pas. Lorsque tu tiens un petit aiglon entre tes mains, toi tu vois un petit aiglon inoffensif. Mais Dieu lui voit un aigle royal. Lorsque tu regardes, tu vois une jeune femme. Toi, tu dis, je vois une jeune femme. Dieu dit, moi, je vois une mère potentielle qui mettra au monde des enfants et une femme qui fera des équipements dans ce monde. Voici ce que je vois. Donc, la question que je me suis posée hier, c'était, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois quand tu te mires le matin? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et hier, on a fini en disant qu'il ne faut pas regarder à nos apparences. Il ne faut pas regarder à notre condition. Il faut regarder à ce que Dieu dit de nous. Il faut regarder à ce que Dieu voit, lui. Et c'est pour cela qu'il est important de lire la Bible. Parce que la Bible n'est pas un livre comme les autres. La Bible est un miroir. Quand tu ouvres la Bible ne fait que te rejeter ce que tu es censé être. Le matin, quand tu te lèves et que tu sors du sommeil, tu ne peux pas sortir du sommeil et puis tout de suite tu prends les clés de la voiture et puis tu pars au travail comme ça. Non. Naturellement, tu vas à la douche et tu te mires. Tu vois les saletés, comment tu as bavé, comment tu as les trucs verts autour des yeux. Et qu'est-ce que tu fais? Le miroir te dit, tu es sale, nettoie-toi. C'est ce que le miroir te dit, non? Et puis tu prends le mouchoir et puis tu te nettoies, le savon, etc. Ensuite, tu retournes devant le miroir et le miroir te dit, ok, c'est bon, tu peux y aller. Et là, tu y vas. La Bible, c'est pareil. La Bible te montre ta vie. La Bible te dit, regarde, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas. Arrange, corrige, fais ceci, fais cela, etc. Et ensuite, tu reviens et tu te réexamines. Et quand tu vois que c'est bon, tu dis, ok, c'est bon, Seigneur, ça va maintenant. Amen. Est-ce qu'on me suit?
Amen.
Gloire à Dieu. Donc, nous avons dit toutes ces choses-là hier. Et on a insisté sur un autre point que j'avais compris également et que j'ai partagé avec vous, qui était tout simplement de comprendre que tout est spirituel. Rien ne vient d'abord du naturel. Tout est d'abord spirituel. Tout ce que nous voyons de nos yeux dans le naturel a d'abord été conçu dans le spirituel. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu est quelqu'un, un enfant de Dieu qui est en Christ, et quelqu'un qui vit dans le naturel, mais qui marche dans le surnaturel, qui opère dans le surnaturel. C'est quelqu'un qui vit dans le naturel, mais qui est tout le temps conscient des choses spirituelles. C'est pour cela que lorsque l'on voit des crimes rituels dans le pays, les païens disent, « Oh, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, nous allons faire des marches dans tout Libreville. On va marcher, etc. » Un enfant de Dieu, bon, excuse-moi, mais si tu étais à ces marches-là, c'est vraiment dommage. Parce qu'un enfant de Dieu n'avait même pas à être à ces marches-là. Un enfant de Dieu, pendant que les autres étaient en train de marcher sur le boulevard, lui, il devait être dans sa chambre en train de prier et prendre autorité. Tout simplement parce qu'il a compris que tout est spirituel. Et parce que tout est spirituel et tout est surnaturel, un jour les pharisiens sont venus devant Jésus et lui ont posé une question. Les pharisiens, dans le livre de Luc, au chapitre 17, au verset 20, lui demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Parce que Jésus-Christ parlait tout le temps du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Le royaume de Dieu est semblable à ceci, le royaume de Dieu est semblable à cela. Eux, au lieu de regarder aux choses spirituelles, au lieu d'essayer de comprendre les paroles de Jésus qui étaient des paroles spirituelles, eux regardaient à leur condition. Quelle était leur condition à l'époque? C'était des esclaves. C'était des esclaves sous l'esclavage romain, sous l'autorité romaine. Donc, eux regardaient à leur condition et eux, leur plus grand désir, c'était d'être délivrés de l'esclavage romain. Et eux, quand Jésus-Christ leur parle du royaume, ils s'attendent à un royaume physique qui doit venir avec Jésus comme roi, qui va les délivrer, etc. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ entre à Jérusalem, tout le monde se met à crier « Oh, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur !» Eux, ils attendaient le royaume de Dieu qui allait venir maintenant. Mais Jésus-Christ n'a pas fait venir, le royaume de Dieu n'est pas venu maintenant. Ils demandent à Jésus « Quand est-ce que viendra le royaume ?» Et lui, il leur répond « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il commence d'abord à l'intérieur, puis est manifesté à l'extérieur. » Tout est spirituel. Est-ce qu'on peut dire avec moi tout est spirituel? Tout est spirituel parce que tout ce qui existe dans le naturel a d'abord été conçu dans le surnaturel. Tout ce que nous voyons de visible a d'abord été conçu dans l'invisible. Et c'est un principe extrêmement important que l'on doit comprendre. Extrêmement important. C'est pour cela que dans le livre de la création, lorsque Dieu crée la terre, lorsque Dieu crée les choses, lorsqu'il crée la terre, il la crée et dépose en elle tout ce dont elle a besoin et ensuite lui demande de le manifester, de l'amener dans le naturel. C'est pour cela que j'étais en train de méditer sur ce sujet et Dieu m'a montré quelque chose de vraiment extraordinaire. J'étais en train de lire la Bible. Regardez, je vais vous le partager. La Bible nous dit « Au commencement Dieu », Genèse 1, verset 1, « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. » Verset 3, « Et Dieu dit « Que la lumière soit » Et la lumière fut. Ce fut le premier jour, etc., etc. Et ensuite, il crée le reste, etc. Arrivé au quatrième jour, Dieu dit que l'étendue des cieux crée des astres, des luminaires. Et Dieu prit le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la lune. Ma question, c'était, mais Seigneur, si c'est le grand luminaire qui préside au jour, c'est la lumière qui nous éclaire aujourd'hui. Mais de quelle lumière tu parlais en Genèse 1, verset 1? De quelle lumière tu parlais? Que la lumière soit et la lumière fut. Mais lorsque l'on lit le processus de la création, on se rend compte qu'il crée la lumière au quatrième jour. Donc entre le premier jour et le quatrième jour, où était la lumière qui fut au verset 3? La réponse, Dieu me dit, c'était l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Tout était en lui. Et le quatrième jour, lorsque Dieu dit que les étendues des cieux créent des astres, c'est lui qui manifeste simplement la lumière qui avait déjà été créée. Et Dieu suit le même processus au cours de la création. Et c'est comme ça que lorsqu'il crée l'homme au sixième jour, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Et arrivé au chapitre 2, la Bible nous dit que il n'avait sur la terre pas d'arbustes ni de végétation, etc. Car il n'y avait pas d'être humain pour la cultiver. Et Dieu prit ainsi de la poussière du sol en formant un corps à l'homme et souffla dans ses narines et il devient une âme vivante. L'homme a été créé, puis il a été formé. Tout se fait d'abord dans l'invisible et se manifeste dans le visible. L'homme a été créé aux cieux et il a été manifesté sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour cela que la chaise sur laquelle tu es assise actuellement a d'abord été créée dans l'esprit de quelqu'un. Et ensuite, il l'a manifestée. C'est sur ça que tu es assise. La voiture que tu roules tous les matins quand tu vas au travail a d'abord été pensée dans l'esprit de quelqu'un. Et ensuite, il l'a designée sur un papier. Et après, il a rassemblé tous les matériaux pour la créer. De même, la maison que tu habites a été pensée dans l'esprit de quelqu'un. Les vêtements que tu portes ont été pensés par quelqu'un. Les chaussures que tu portes sont sorties de quelqu'un. L'entreprise dans laquelle tu travailles était au départ une idée de quelqu'un. C'est pour cela que j'ai dit hier que tout ce que tu peux voir dans ton esprit, tout ce que tu peux concevoir dans ton esprit, tu peux l'amener à l'existence. Parce que c'est une aptitude, c'est une capacité que Dieu nous a donnée. L'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est le créateur. Et parce qu'il nous a créés à son image et selon notre ressemblance, nous aussi, nous pouvons créer. Et parce que Dieu crée en esprit, nous aussi, nous créons d'abord en esprit. Amen. Je prends le temps de nous rappeler ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons insister sur une partie très pratique, sur comment faire, sur les clés pour pouvoir libérer son potentiel. Mais je prends le temps de revenir sur ces choses-là. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Donc tout sort de l'invisible et tout est manifesté dans le visible parce que cela a été conçu dans l'invisible. Et David l'avait compris. David l'avait compris. Paul aussi l'avait compris. Paul nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Tout est sorti et tout a été créé d'abord par la parole. Par la parole. Et vous n'avez pas remarqué que la Bible nous dit dans le livre de... La Bible nous dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu. Donc, si elle dit au commencement, Dieu, ça veut dire que avant le commencement, il y avait d'abord Dieu. Il y avait d'abord Dieu avant le commencement. Dieu était d'abord avant le commencement. Et le commencement est sorti de lui. Voilà pourquoi il est le commencement du commencement. Donc, si on pouvait mettre un verset zéro au livre de Genèse, on dirait « En Dieu était le commencement. Tout ce qui est, était en Dieu et tout ce qui était, a été créé par Dieu. » Ça, c'est le verset zéro de la Bible. Et ensuite, verset 1, « Au commencement, Dieu. » Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est très important de comprendre ça. Et lorsque Jean écrit l'évangile de Jean, Jean dit, livre de Jean, chapitre 1, au verset 1, il dit « Au commencement était la parole. » Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres termes, la parole était avec Dieu au commencement et non au commencement avec Dieu. Je m'explique. Ce que j'essaie de nous dire, c'est que Dieu d'abord était là. Et si la Bible nous dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était en Dieu. Et si le commencement a été créé par la parole, parce que tout a été fait par la parole, le commencement est sorti de la parole. C'est pour cela que Christ est appelé la parole et que c'est lui qui a créé toutes choses. Et Christ dit, je suis sorti du Père qui était avant le commencement. Est-ce qu'on me suit? Donc tout d'abord à l'intérieur. Tout vient d'abord de l'invisible et ensuite a été manifesté. C'est pour cela que Christ dit « Avant la fondation du monde, j'étais là. J'étais dans le Père. » Et c'est pour cela que quand Salomon reçoit cette révélation, il écrit Proverbe chapitre 8 sur la sagesse. La sagesse était là bien avant la fondation du monde. Elle a créé les cieux et la terre. La sagesse ceci, la sagesse cela. La sagesse dont il parle ici, c'est qui? C'est Christ qui était là avant toute chose. Et lui, il existait dans l'invisible. Mais ce qui est formidable, pour revenir à toi et à moi, c'est que Christ nous dit, au commencement, avant la fondation du monde, vous étiez en moi. Vous étiez là. Et je vous ai manifesté. À quel moment je vous ai manifesté? Au moment où j'étais à la croix. Et que le soldat vient avec la lance et il perce sur le côté. Quand il perce sur le côté, la Bible dit que le sang coula avec l'eau. C'était qui ici? C'était toi et moi. C'était toi et moi qui venons d'arriver sur terre. C'était toi et moi. Ni plus ni moins. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il existe deux types de personnes sur terre. La Bible nous le montre très clairement. Il existe ce qu'on appelle les non-croyants ou encore les gentils ou encore les païens. Et la deuxième catégorie d'êtres humains qui existe sur la terre, c'est ce que Paul appelle la nouvelle création. C'est-à-dire des êtres humains qui sont sortis de Christ. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Jean 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, ils ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni du sang. Ils sont nés de Dieu, du Saint-Esprit. Amen. On avance. Donc, tout sort de l'invisible. Et David l'avait compris, et c'est pour cela qu'il dit dans le psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Non, ce n'est pas ça. 139. Psaume 139, verset 15. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Tout vient de l'invisible. Tout sort de l'invisible. Et la Bible nous le montre très clairement. Et le jour où tu comprends ce principe-là, le jour où tu découvres, tu comprends que tu as en toi tout ce qui est nécessaire, tu as en toi un potentiel extraordinaire, tu as en toi tout ce que tu peux désirer, tu peux le manifester. Dieu dit, libère-le simplement. Est-ce qu'on peut dire avec moi, libère ton potentiel? Moi, chaque fois que je fais quelque chose, Dieu me fait la grâce aujourd'hui d'animer une émission sur une radio. Et chaque semaine, lorsque je dois écrire la nouvelle émission, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais raconter? Je me mets devant mon ordinateur et j'aime faire un exercice. C'est que j'aime me mettre devant une page blanche. Et puis, je regarde ma page blanche. Je la fixe. Et puis, je reste dessus. Je médite. Et puis là, je prononce une prière. Je dis, libère ton potentiel. Libère ton potentiel. C'est ce que je fais. Et puis là, je commence à écrire. J'efface. Libère ton potentiel. J'écris. Et je reste des heures. Et puis je vois comment ça coule. Et je vais enregistrer mon émission. Et c'est comme ça. Quand tu te retrouves face à une situation, tu dois être créatif. Ou tu dois te surpasser. Dieu dit, c'est déjà en toi. Amen. On avance. Donc, je répète la phrase que ce pasteur, que j'aime beaucoup, avait dit. Tu es l'extension de Christ sur terre. Tout ce que Christ est, tu l'es. Tout ce qu'il fait, tu peux le faire. Tout ce qu'il peut accomplir, tu peux l'accomplir. C'est pour cela qu'il a dit que maintenant que vous êtes en Christ, à tous ceux qui croiront en mon nom, voici les miracles qui les accompagneront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les serpents les mordront et il ne leur arrivera rien. C'est pour cela que Paul, quand il avait compris ça et qu'il arrive sur une île, un serpent lui mord la main, il reste serein. Il dit non, je suis une nouvelle création, l'esprit habite en moi. Bon, j'avoue, le jour où tu vois un serpent en général, on détale en général. Ok, gloire à Dieu. Donc, Dieu voit en toi des nations. Quand tu te mires et que tu regardes le miroir, ce n'est pas la vérité que tu vois. Ce que Dieu voit va bien au-delà. Dieu voit en toi des nations, Dieu voit en toi des richesses, Dieu voit en toi des vies, des enfants, des entreprises. Dieu voit en toi des discours qui peuvent changer ce pays. Dieu voit en toi quelqu'un qui peut changer le monde. Dieu voit en toi des actions qui peuvent sauver des vies. Dieu voit en toi des églises qui peuvent être amenées, qui peuvent amener beaucoup d'âmes à Christ. Dieu voit en toi des entreprises qui peuvent créer des emplois. Dieu voit en toi des livres. Dieu voit en toi beaucoup de choses. C'est pour cela qu'un prédicateur célèbre aime à prononcer une phrase que j'aime beaucoup lorsqu'il dit que l'endroit le plus riche de la terre se trouve à côté de chez nous. Et cet endroit, c'est le cimetière. Et les gens lui demandent, mais comment tu peux dire que l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière? Il répond, parce que tout simplement, dans le cimetière sont enterrés des gens qui n'ont jamais libéré leur potentiel. Dans le cimetière sont enterrés des livres qui n'ont jamais été écrits, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des entreprises qui n'ont jamais été créées. Des emplois qui n'ont jamais été créés parce que les personnes qui y sont enterrées n'ont jamais eu le courage et l'audace de se lever pour entrer dans le couloir de leur destinée. Et que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu voit en toi un roi, Dieu voit en toi quelqu'un de grand. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, Abraham, je ferai de toi quelqu'un de grand. Et lorsque tu entres en contact avec ce Dieu omnipotent, il se passe toujours quelque chose. N'ai pas remarqué que les grands serviteurs de Dieu dans la parole, lorsqu'ils sont entrés en contact avec le Dieu omnipotent, ce Dieu du surnaturel, là, même leur nom a changé. Seul de Tarse rencontre ce Dieu omnipotent. La Bible elle ne nous explique même pas comment. On voit juste d'un chapitre à un autre, ce n'est plus Saul, c'est maintenant Paul. Mais comment il a fait pour s'appeler Paul? En fait, entre les deux, là, la transition, là, il y a eu une rencontre. Jacob, le trompeur, se combat avec Dieu toute une nuit. Il rencontre ce Dieu-là qui le frappe à la hanche. Et puis quand il revient le lendemain matin, tout le monde dit, mais oh, papa Jacob, tu étais où? Il dit, ne m'appelez plus papa Jacob. Désormais, je m'appelle Israël, le prince de l'éternel.
Amen.
Oh oui. Quand Pierre, Simon, rencontre Jésus, il vient, Rabbi, bonjour. Jésus le regarde. Désormais, tu ne t'appelleras plus Simon. Celui qui doute de lui, tu t'appelleras Pierre. Hein? Quoi? Tu t'appelleras Pierre. Ton nom change quand tu entres en contact avec ce gars-là. Et je me suis toujours posé une question. Quand je regarde parfois des vidéos de serviteurs de Dieu qui enseignent, etc., il y a certains serviteurs de Dieu qui aiment s'habiller en blanc. Vous n'avez pas remarqué que certains serviteurs de Dieu, quand ils ont commencé l'œuvre, ils s'habillent normalement. Mais quand l'œuvre est devenue gigantesque, ils s'habillent maintenant en blanc tout le temps. J'ai dit, mais pourquoi il veut montrer quoi? Il est plus simple, plus pur, plus soft que tout le monde quoi maintenant. Pourquoi il aime toujours s'habiller? Même les chaussures sont blanches. Vous n'avez pas remarqué ça? Particulièrement les pasteurs de grandes églises au Nigeria. Ils aiment s'habiller en blanc. Et bien, Dieu me dit, mais petit fils, tu n'es pas la même dimension que lui. La dimension, lui, le Père Dieu. Quand il vient, il met le blanc, c'est que au contact de ce Dieu-là, omnipotent, c'est que il a un tel revêtement maintenant sur sa vie que même ses vêtements maintenant, il dit, c'est maintenant du blanc. Non, parce que le blanc, c'est la couleur du ciel. Est-ce qu'on peut... Alléluia. Donc je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à libérer ton potentiel. Et toutes les portes dans ta vie qui sont fermées avant la fin de cette année s'ouvriront. Amen. Dieu voit en toi Christ. Il voit quelqu'un de grand. Il voit quelqu'un d'extraordinaire. On va terminer avec... On va avancer et terminer avec ce passage-là. C'est Jésus-Christ qui nous donne le passage, la parabole qui nous parle même de ce sujet, le potentiel. Une parabole que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu au chapitre 13, verset 44, voici ce qu'il dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Est-ce qu'on peut dire avec moi ce champ? Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ce passage nous dit simplement que le secret de la réussite et du bonheur dans la vie, c'est de découvrir ce trésor caché dans le champ de Dieu, de l'acheter et de se le procurer. Et je me suis dit, ok, je veux rentrer en profondeur dans ce passage. Et la version parole vivante de la Bible nous explique, nous traduit ce verset d'une autre manière encore plus intéressante. Elle dit, le règne des cieux est comme un trésor enfoui dans un champ. Est-ce qu'on peut dire avec moi un trésor enfoui dans un champ? Un homme le découvre par hasard. Puis, comme le champ ne lui appartient pas, il le cache de nouveau. Il s'en va, débordant de joie, et s'empresse de vendre tout ce qu'il possède. Ensuite, il revient acheter le champ. Est-ce qu'on peut dire avec moi, libère ton potentiel? Il y a en toi un potentiel extraordinaire, enfoui depuis la fondation du monde. Et Dieu dit que la clé de ta réussite dans la vie, le secret de ton bonheur dans la vie, c'est de découvrir ce trésor qui sommeille en toi et de le libérer. Voici la clé du bonheur dans la vie. La clé du bonheur dans la vie, c'est de découvrir ce que Dieu a caché en nous. C'est ce que j'appelle le potentiel. Christ, ici, l'appelle un trésor caché. Un trésor, c'est quelque chose d'une valeur inestimable. C'est quelque chose de magnifique, de grand. Et chaque parabole de Jésus nous révèle toujours des vérités cachées du royaume des cieux, avant la fondation du monde. Et dans cette parabole, Jésus-Christ nous révèle 5 choses. La première chose que Jésus-Christ nous révèle au travers de cette parabole, la première vérité que Jésus-Christ nous révèle, c'est que Dieu a pris le soin de cacher dans un champ le trésor qui fera ton bonheur et ta joie. Dieu a pris le temps de le cacher. Ton potentiel, Christ le compare à un trésor d'une grande valeur. Et la question que tu peux te poser, mais pourquoi Dieu a pris le temps de le cacher? Pourquoi Dieu l'a caché et ne me l'a tout simplement pas montré de manière naturelle? Et la réponse que j'ai envie de te donner, c'est celle-ci. C'est si l'enfant n'est pas encore mature, est-ce que tu lui confieras l'héritage? Non. Tu vas attendre qu'il grandisse, qu'il comprenne la valeur de cet héritage et ensuite tu vas le lui donner. Si je prends ma fille et que je lui donne un billet de 10 000 francs, elle va le déchirer et le jeter par terre parce qu'elle n'en connaît pas la valeur. C'est la même chose. Il y a des révélations concernant ta vie que Dieu ne te donnera pas parce que tu n'es pas encore suffisamment mature pour les recevoir. C'est pour cela qu'il est important de grandir et d'acquérir la sagesse et de connaître Dieu. Et il y a des révélations concernant ton potentiel tes capacités, tes aptitudes, tout ce que tu peux accomplir, que Dieu ne pourra pas te montrer tant que tu ne parviendras pas à la maturité et à la connaissance. Donc Dieu a pris le temps de les cacher. C'est pour cela que Salomon, comprenant cela, nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 25, verset 2, Salomon nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Le mot « chose » ici, là, je suis allé chercher, c'est un mot hébreu que l'on prononce « dabar ». Est-ce qu'on peut dire avec moi « dabar » ? Et « dabar » veut simplement dire « quelque chose qui a été déjà fait ». Donc, si on remplace le mot « chose » par ça, on va dire « la gloire de Dieu, c'est de cacher ce qui a déjà été fait ». Et la gloire des rois, c'est-à-dire toi et moi, c'est de sonder. Sonder, c'est-à-dire quoi ? Chercher, étudier, creuser jusqu'à trouver ce qui a déjà été fait. C'est pour cela que hier, j'ai utilisé un mot très important qui est la prédestination. Chacun d'entre nous, nous sommes prédestinés. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Pour être semblable à l'image de son Fils, le premier-né d'entre nous. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, etc., etc. La prédestination, qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est également ce que nous avons vu hier dans le livre de Ésaïe au chapitre 46, au verset 8, lorsque Dieu dit, « Je suis Dieu, celui qui annonce au commencement la fin. » Ce qui a déjà été fait à la fin. Notre vie est un scénario qui est en train de se dérouler en différé. Notre vie est un match de football que l'on regarde, mais on en connaît déjà le score. Vous n'avez pas vu que ce n'est pas intéressant de regarder un match de football alors qu'on connaît déjà le score de la fin? Ou bien quand tu dis, oh, j'ai envie d'aller voir tel film au cinéma, et puis tu as quelqu'un à côté qui te dit, oh oui, ce film est bien, en fait je l'ai vu. Non, mais comment ça me raconter? Sinon tu vas casser tout l'enthousiasme là, toi aussi, tout le suspense. Et toi, tu ne le sais peut-être pas, mais ta vie est un livre ouvert que Dieu est en train de lire. Quand tu lis un livre, c'est comme quand tu regardes un film, il y a des moments de joie, de tristesse, d'émouvant, etc. Mais le dernier chapitre, c'est ce qui compte, c'est la fin. Et Dieu connaît déjà la fin. Et moi, j'ai pour habitude de dire que le dernier chapitre de ma vie, le titre, c'est gloire. Et ton titre à toi aussi, c'est gloire. Réussite. Quel que soit ce que tu vivras, c'est ce que tu connaîtras à la fin de ta vie. On avance. La deuxième vérité que Jésus-Christ nous révèle, c'est que tu dois chercher dans le bon champ. Tu dois chercher dans le bon champ. Et ce champ dont Jésus parle ici, c'est ni plus ni moins que toi. C'est pour cela que Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, premier livre aux Corinthiens, chapitre 3, au verset 9, Paul nous dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, c'est-à-dire la maison qu'il construit. » Et j'ai envie de te dire que si tu avais un trésor précieux, où est-ce que tu le cacherais? Tu le cacherais certainement à un endroit où il n'y a que toi qui connais le secret, la cachette. Et surtout un endroit où il n'y a que toi qui pourrais y avoir accès. Et Dieu, pour cacher le plus grand de tous les trésors au monde, où est-ce qu'il va le cacher? Tout comme toi, tu caches parfois ton argent dans la maison, sous le lit, je ne sais pas où. Dieu, lui, il cache aussi son argent, son trésor dans sa maison, c'est-à-dire toi. Est-ce qu'on peut dire avec moi le potentiel? Le potentiel. Oh oui, le potentiel. Troisième vérité que Jésus-Christ nous révèle, c'est qu'il faut d'abord acquérir le champ pour pouvoir posséder le trésor. Lorsque tu cherches dans le bon champ, c'est-à-dire toi-même, lorsque tu commences à faire des investigations sur ta personne, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure parce que c'est ce par quoi on va terminer. Lorsque tu commences à faire des investigations sur toi-même, tu dois maintenant, ce que Christ dit ici, acquérir le champ pour pouvoir posséder le trésor. La Bible nous dit dans la parabole que l'on vient de voir, elle précise, il dit, et comme le champ ne lui appartient pas, il le cache de nouveau et s'en va débordant de joie et s'empresse de vendre tout ce qu'il possède pour venir racheter le champ. Notre vie, notre corps, notre personne, notre être entier ne nous appartient pas. On appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? On appartient à Dieu. Et c'est pour cela que parce que tu sais que tu appartiens à Dieu, tout ce qui est en toi appartient à Dieu. Voilà pourquoi il est important d'aller voir toujours le propriétaire du champ et lui dire, laisse-moi acquérir ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de prier. Paul nous dit dans Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Et c'est à Dieu qu'il faut aller demander. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu as en toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne connais pas tes capacités. Tu ne connais pas ta destinée. Dieu ne te l'a pas encore révélée et tu la cherches. Mais il faut que tu prennes le temps de prier. Il n'y a pas de prière plus importante que la prière de destinée. C'est la prière où tu cries à Dieu et tu demandes à Dieu ce que tu es appelé à être, ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut de toi. Au lieu de te précipiter dans des emplois insignifiants, aller t'associer avec n'importe qui, à courir prophète après prophète, apôtre après apôtre pour venir prophétiser sur ta vie, etc. Dieu est le prophète au-dessus de tous les prophètes parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, Dieu a prononcé des paroles sur nous. Et ces paroles sont contenues dans la Bible. Et c'est pour cela qu'il est important d'aller voir Dieu et de lui demander, « Seigneur, révèle-moi ma destinée. Révèle-moi mon appel. Révèle-moi mon ministère. Révèle-moi ce que tu attends de moi dans cette vie, Seigneur. Révèle-le-moi. » Et je t'assure, Dieu te le révélera. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quatrième vérité que Jésus-Christ nous révèle, c'est que tu dois t'empresser de vendre tout ce que tu possèdes, comme l'homme qui a trouvé le champ. Pour acheter le champ, tu dois vendre tout ce que tu possèdes. Vendre tout ce que tu possèdes veut simplement dire te séparer de tout ce qui a de la valeur pour toi, pour pouvoir acquérir ça. On parle ici de sacrifice. Pour pouvoir libérer ton potentiel, tu vas devoir faire des sacrifices. Pour libérer ton potentiel, il y a des choix que tu vas devoir faire. Il y a des rêves qui bouillonnent en toi. Il y a des désirs qui sommeillent en toi et que tu veux faire sortir. Mais tu es là, tu regardes à ta situation, tu regardes à ta vie, tu dis, « Ah, je ne peux pas me lancer dans tel domaine. Si je me lance là-dedans, si je me lance dans ce ministère, si je me lance dans cette entreprise, ça va être trop difficile. Non, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est compliqué, etc. » Mais Christ dit, « Tu dois vendre tout ce à quoi tu es attaché. » C'est pour cela que Christ a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et ça, tu vas devoir le faire pour pouvoir acquérir le potentiel, c'est-à-dire le trésor, qui est caché en toi. Et enfin, cinquième vérité que Christ nous révèle, c'est celle-ci. Tu dois acheter le champ. Acheter le champ veut simplement dire investir en toi-même. Tu dois investir. Il y aura un temps où, je t'assure, quand tu voudras rentrer dans ton couloir, quand tu auras découvert ta destinée, quand tu auras découvert ce que Dieu attend de toi, tu vas devoir payer un prix. Et tu vas devoir investir en toi-même. Tu vas devoir te former. Tu vas devoir te développer. Tu vas devoir maximiser ce potentiel. C'est comme quand tu commences à créer une entreprise. Quand tu crées un business, tu commenceras d'abord petit. Tu commenceras d'abord avec tes propres moyens. Tu commenceras certainement peut-être à travailler de la maison. Tu n'auras pas les moyens de te prendre un bureau, etc., etc. Mais au fur et à mesure que tu avanceras et que ton business se développera, tu devras aussi développer tes capacités, développer tes services. Tu devras te former, développer ton vocabulaire, ton discours, etc. Tu devras te structurer, tu devras embaucher, etc., etc. Tu devras investir en toi-même pour pouvoir acheter le champ. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Et Christ compare ton potentiel à un trésor caché. Maintenant, pour finir, comment faire pour libérer ce potentiel? Quelles sont les clés? Maintenant qu'on a compris que tout vient de l'invisible, que tout est conçu dans l'esprit, qu'en nous il y a un trésor caché, qu'en nous il y a toutes sortes de potentialités. Le potentiel est semblable à un produit qui doit être utilisé avec des clés. Et ces clés, c'est ce par quoi on va terminer. Le prérequis pour pouvoir libérer ton potentiel, le prérequis, avant la première clé, la première condition, c'est d'être connecté à ta source. Toute personne qui n'est pas en Christ, toute personne qui n'est pas connectée à la source de vie, Christ, ne peut pas libérer son véritable potentiel. Ce n'est pas parce que tu vois un joueur de football à la télévision qui fait des allers-retours sur un terrain, qui gagne des millions de francs CFA par jour, etc., qu'il a libéré son potentiel. Il a su développer ses dons et ses talents. Mais tant qu'il n'est pas en Christ, il n'atteindra jamais sa destinée. Il brillera sur la terre aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est un échec réussi. Aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un, oui, certes, qui a découvert des dons et des talents en lui, parce que les dons de Dieu, il ne les récupère pas, il ne les reprend, il ne s'en repent pas. Dieu, quand il donne, il donne. Donc chacun d'entre nous, on vient au monde avec des talents naturels qu'on développe et avec lesquels on peut vivre. Mais il n'y a pas plus important que le salut. Et c'est pour cela que toute personne qui veut atteindre sa destinée, qui veut rentrer en possession de son héritage doit être reconnecté à la source de vie, Christ. La première clé pour libérer son potentiel, la toute première clé, c'est tu dois avoir une vision claire pour ta vie. Tu dois être conduit par une vision. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, au chapitre 29, au verset 18, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » Si tu n'as pas de vision pour ta vie, tu vivras dans le désordre. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, tu feras des choix que tu pourras regretter. Tu t'associeras avec n'importe qui. Je vous assure, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi j'ai pris ça en toute première clé? Parce que c'est une clé fondamentale. Regardez le monde dans lequel on vit et vous pouvez vous faire une idée de gens qui vivent sans vision. Un pays où il n'y a pas de vision est un pays qui vit dans le désordre. Quand il n'y a pas de direction, on ne sait pas où on va au clash. J'ai pour habitude de dire aussi que si tu montes dans un avion et qu'au moment où l'avion est en train de décoller, tu entends la voix du commandant de bord qui dit « Mesdames et messieurs, bonjour, je suis votre commandant de bord, nous allons décoller dans quelques instants, mais nous ne savons pas où nous allons juste décoller, nous allons voler, mais nous avons, je t'assure, dépêche-toi vite de descendre. » Dépêche-toi vite de descendre. Sans vision, tu ne vas nulle part. Sans vision, tu es comme un aveugle qui marche dans la rue et qui s'apprête à traverser la rue sans aide et qui risque de se faire renverser par une voiture. Sans vision, tu risques d'avoir des accidents regrettables qui peuvent te coûter cher. Est-ce qu'on peut dire avec moi la vision? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Parfois quand tu souffres trop, parfois quand tu traverses trop de galères, quand tu ne trouves pas d'emploi, quand tu ne sais pas où tu vas, ton avenir est incertain. Il faut savoir s'arrêter, arrêter de courir, s'asseoir, prendre une feuille blanche et un stylo et d'écrire ce qu'on veut pour sa vie. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu en Christ, tu dois être capable de résumer en une phrase ce que ta vie est appelée à devenir. Tu dois en être capable. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à écrire en une phrase la vision de ta vie, alors je t'assure, dépêche-toi vite de le faire parce que tu es en danger. C'est pour ça que quand on entre ici, il y a un panneau là-bas où il y a écrit la vision de l'église. Parce que c'est comme quand on rentre ici, on monte dans un avion. Et cet avion, il y a une vision. C'est ce qu'on appelle le plan de vol. Quand un pilote vole, il a un plan de vol. C'est la vision. Une fois quelqu'un a demandé, on dit, c'est quoi la différence entre le but et la vision? Parce que hier, vous avez parlé de but. Et c'est quoi la différence entre le but et la vision? Parce que je la comprends pas trop. Et je donne une image. J'ai dit, le but, c'est la destination finale que tu dois atteindre. La vision, c'est le plan pour pouvoir atteindre ce but. Quand tu quittes la maison et que tu vas au travail, ta destination, c'est ton travail. La vision, c'est l'itinéraire que tu vas emprunter. C'est le plan que tu vas suivre. Et parce que tu sais que tu dois atteindre telle destination, tu sais que tu ne devras pas faire telle sortie de route, telle sortie de route, telle sortie de route. Parce que si tu fais telle sortie de route, tu risques de t'éloigner de ton but principal. Et la vie, c'est la même chose. Si tu n'as pas de vision, tu risques de faire des sorties de route. Les sorties de route, ça peut être une mauvaise association. Les sorties de route, ça peut être épouser le mauvais conjoint. Il suffit d'une personne pour faire de ta vie un enfer ou un paradis sur terre. Tu épouses la femme avec la robe blanche quand tu la rencontres à la maison, maintenant tu vois que c'est une autre personne. Parce que tout simplement, il n'y avait pas de vision pour le foyer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la vision? Tu ne peux pas changer ce que tu tolères dans la vie. Donc si tu ne vois rien, tu accepteras tout ce que tu veux. La deuxième clé, c'est que tu dois être dans le bon environnement. Tu dois être dans le bon environnement. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'environnement? L'environnement, ce sont les conditions réunies qui ont un effet direct et indirect sur les performances d'un produit, sur son fonctionnement ou sur son développement. Et les conditions, elles peuvent être internes et aussi externes. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous achetez un produit, le produit vient toujours avec une notice. Et dans cette notice-là, il y a des recommandations du fabricant. Le fabricant dit à conserver au frais, ne pas exposer à température élevée, ne pas laisser à la portée des enfants. Parce que c'est le bon environnement pour avoir les performances maximales du produit. Et c'est la même chose avec nous. Dieu dit, pour que ton potentiel soit libéré, il faut que tu sois dans le bon environnement. Il y a un environnement, tu n'as pas remarqué qu'il y a des endroits, tu es là-bas depuis des années, mais tu rames toujours autant. Tu fais des efforts, tu essaies de faire des choses, mais tu n'y arrives pas. C'est pour cela qu'il y en a qui s'exilent dans d'autres pays. Moi, je connais quelqu'un, elle travaillait en France. Elle travaillait dans une société et elle gagnait très bien sa vie. Mais elle s'ennuyait. Elle ne se sentait pas déployée. Et quand elle ne se sentait pas déployée, un jour, elle a pris la décision de rentrer à Libreville. Elle est restée à Libreville 3 ans. Elle travaillait dans une société et elle gagnait aussi très bien sa vie. Mais malheureusement, elle s'ennuyait toujours. Elle décide d'aller en Côte d'Ivoire. Et là-bas, un jour, je lui demande, comment ça se passe là-bas? Elle me dit, je m'ennuie. Je ne me sens pas libérée. Pourtant, je gagne beaucoup d'argent. Hein, mais... Et je lui ai dit, le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Et deux, l'environnement dans lequel tu es ne te correspond pas. Il faut que tu trouves un endroit où tu te sens étiré, déployé. L'environnement, est-ce qu'on peut dire avec moi l'environnement? Et c'est très important de comprendre cela. Quelles sont les conditions idéales pour un enfant de Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes en Christ. L'environnement idéal pour un enfant de Dieu commence d'abord par la sainteté. La première chose, tu ne peux pas libérer ton potentiel si tu vis dans le péché. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Dieu omnipotent, le Dieu tout potentiel qui habite en toi ne se mouvoit pas dans le péché. Si tu es quelqu'un qui vit dans le péché, je t'assure, tu monteras, tu descendras, Dieu ne se glorifiera pas dans ta vie. L'environnement idéal également dans lequel ton potentiel a besoin d'être libéré, c'est un environnement dans lequel tu te sens en confiance et rempli d'assurance. Lorsque tu es dans un endroit où tu te sens en confiance et rempli d'assurance, je t'assure, tu te déploies plus rapidement que les autres. Un environnement également où ton potentiel est éprouvé et stimulé au maximum. Et parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais Dieu permet qu'ils soient dans des environnements très hostiles et très difficiles pour faire sortir ce qui est en eux. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on fait un gâteau, il faut le mettre dans un four à température élevée. Le gâteau, lorsque tu le prends et qu'il n'est pas encore cuit et que tu trempes le doigt dedans pour goûter, à part le sucre, tu dis, bon, c'est pas top, hein. Mais il faut prendre le gâteau, il faut le mettre dans une température élevée, 100 degrés, et puis de temps en temps, tu viens regarder. Et puis, qu'est-ce que tu prends? Tu prends le couteau et tu piques. Tic, 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 tic. Et puis, tu fais... C'est pas encore cuit, on remet. Et en fait, c'est ce que Dieu fait avec toi. Dieu, il vient, il regarde ta vie, il ouvre. Il pique, tic, tic, tic. Et les piqûres, là, ce sont les épreuves qu'il envoie, etc. Tic, tic, tic. Il goûte. Le potentiel n'est pas encore libéré, on remet. C'est ce que Dieu fait. Mais à la fin... Au bout d'une heure, quand on sort le gâteau, on mange quelque chose de délicieux, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu fait. Au bout d'un moment, quand le potentiel est libéré et que tu commences à t'épanouir, Dieu dit, là c'est bon mon fils, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton père. Est-ce qu'on peut dire amen? Un environnement également où on croit en toi, on croit en tes capacités, ton potentiel en a besoin. Un environnement où tu te sens te surpasser. Parfois, certaines personnes, elles ont besoin d'être dans un environnement où il y a une pression, elles doivent tout le temps se surpasser. Particulièrement les sportifs ou les acteurs de cinéma. Un sportif, moi j'aime regarder le football, quand je regarde la Ligue des Champions, tu vois les gars quand on chante une nationale au début du match, tu sens la pression sur leurs épaules, ils sont là, ils ne sourient pas. Quand ils chantent l'hymne national du pays, là l'enjeu est trop capital, il faut qu'on gagne le match là, sinon on est relégué en... Et quand les gars sont sur le terrain, ils se surpassent au point de se faire des claquages, etc. Parce que tout simplement, leur potentiel doit être libéré. Un environnement où tu as besoin également de gens qui t'encadrent. Parfois, beaucoup d'entre nous, on a besoin de personnes pour nous encadrer. Ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être un pasteur, ça peut être un père spirituel. Mais chacun d'entre nous, on a besoin de quelqu'un pour nous encadrer, pour ne pas tout simplement dépasser nos limites. Et enfin, un environnement où nos limites doivent être tout le temps dépassées. C'est ce qu'Ésaïe dit, vous l'avez vu sur le verset. Ésaïe dit au chapitre 54, au verset 2, c'est Dieu qui te parle. Dieu dit, agrandis la tente où tu vis. J'aime trop ce verset. Tant d'étoiles supplémentaires.
ne regarde pas à la dépense. Pour celui qui veut entreprendre, Dieu dit ne regarde pas à la dépense. Ne regarde pas aux moyens. Lance-toi. Mais Seigneur, j'ai pas. Lance-toi. J'ai pas. C'est difficile là. Lance-toi. Seigneur, je dois faire le ministère. Mais comment je vais faire? J'ai pas d'argent. Lance-toi. Lance-toi. Tu verras. Tu verras. Et après, il dit, allonge les cordes de ta tente. Consolide les piquets car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins et tes villes désertes vont être repeuplées. Est-ce qu'on peut dire avec moi, libère ton potentiel? La troisième clé, connais ta forme. Car la Bible dit, Dieu prit de la poussière de la terre et forma. Connais ta forme. La Bible nous dit dans Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines et devint une âme vivante. Ésaïe 43:1 dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, il y a une faute, qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Jérémie 1:5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Le mot formé ici est un mot hébreu que l'on prononce yassar, qui veut simplement dire en français façonné, ou encore designé, ou encore structuré. Dieu t'a structuré, Dieu t'a façonné. Et comment Dieu t'a façonné? Par ta personnalité, ton caractère, tout ce que tu es. Et ton potentiel, non seulement a besoin du bon environnement, mais toi aussi, pour mieux le libérer, tu as besoin de mieux te connaître. Mieux tu te connais, il y a des décisions que tu ne prendras pas. Mieux tu te connais, mieux tu anticiperas les événements. Mieux tu décideras. Plus tu feras preuve de sagesse face à certains choix, etc. Parce que tu te connais. Si tu sais que tu es un gars très calme, qui a besoin de calme, un gars qui aime la sérénité, un gars qui, pour être créatif, tu as besoin de calme. Et tu t'amuses à aller épouser une femme qui est bruyante. Tu vas être cette personne-là dont parle Salomon dans le livre des Proverbes. Vaut mieux habiter sur le toit d'une maison que dans la maison d'une femme querelleuse. Parce que tu te sentiras frustré. Amen. Connais ta forme. Dans le mot forme, il y a plusieurs lettres. Pour pouvoir étudier ta forme, c'est-à-dire étudier ta personnalité, je t'invite à faire un exercice. Tu prends le mot forme et la première lettre, le F, signifie simplement fais l'inventaire de tes dons spirituels. Prends le temps de t'examiner et de regarder les dons que Dieu t'a donnés. Ça, c'est le F. Fais l'inventaire de tes dons. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, que les présents d'un homme, le mot présent ici, c'est un mot hébreu qui veut dire les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Il y a des dons, des capacités, des aptitudes en toi qui peuvent te donner accès auprès des grands. Il y a des gens dans ce pays que beaucoup de gens veulent rencontrer. Mais il y a des gens qui ont accès à ces personnes-là juste à cause de leurs dons et du travail qu'ils font. Le travail que tu fais aujourd'hui ne te donnera pas accès à certaines personnes dans ce pays. Mais il y a certaines personnes dans ce pays, tu sais que ma percée, c'est de rencontrer telle personne, alors assure-toi de faire le travail qu'il faut pour la rencontrer. Oh oui. Aujourd'hui, tu es personne. Mais demain, imagine, tu crées ton entreprise. Ton entreprise prospère. Tu commences à créer des emplois dans le pays. Économiquement parlant, tu deviens quelqu'un de très important. Tu embauches des centaines et des centaines de personnes. Je t'assure, tu deviens quelqu'un de dangereux. Et le jour où tu dis, je délocalise. Oh, c'est le président tout de suite qui t'appelle. Monsieur, venez, on va s'asseoir. Tout simplement. Parce que tu es quelqu'un qui a su développer ses dons et ses talents. Le haut de forme veut simplement dire, ouvre ta boîte à talents. Ouvre ta boîte à talents. Le R veut dire, reviens sur tes expériences passées. Lorsque tu prends le temps de t'étudier, tu dois prendre le temps de revenir sur ta vie et tu vas te rendre compte que les expériences que Dieu t'a permises de traverser, même quand elles ont été très difficiles, Dieu a permis que tu les traverses parce qu'il savait que tu en avais besoin pour pouvoir façonner ton caractère et résoudre les problèmes que tu vas rencontrer devant. C'est très important de comprendre ça. Joseph a été jeté dans un puits à cause de son rêve. Il est parti en esclavage et il ne comprenait pas pourquoi. Mais quand il voit les percées qu'il a dans sa vie, il se rend compte que waouh, waouh, waouh. Et c'est seulement à la fin de sa vie, parce que pendant toute sa vie, il pense que c'était juste pour lui. Il pense que Dieu voulait l'élever, Dieu voulait faire de lui le premier ministre d'Égypte, etc., etc. Donc il a vécu pendant des années en tant que premier ministre, jusqu'au jour où il y a eu la famine. Et le peuple d'Israël était menacé de famine. Et Dieu dit, au travers des enfants de Jacob, va en Égypte, là-bas tu vas voir ton fils Joseph, que tu n'as plus vu depuis des années. Et Joseph se rend compte à la fin de sa vie qu'en fait, Dieu avait permis tout ça pour qu'il arrive là pour pouvoir sauver le peuple. Et Joseph se rend compte qu'en fait, ce n'était pas pour moi, c'était pour le peuple de Dieu. Amen. Reviens sur tes expériences passées. Le M mesure les battements de ton cœur, c'est-à-dire ce qui te passionne. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait jubiler? Ne t'engage jamais dans un endroit où tu ne jubiles pas. Hier, je disais à quelqu'un, je parlais avec quelqu'un, et il me disait, je lui demandais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il me dit, je veux faire du droit. Mais est-ce que tu aimes le droit? Non. Mais pourquoi tu veux faire du droit? Ben, c'est ce qu'on fait à l'UOB. Donc, tu vas engager toute ta vie juste parce que c'est ce qu'on fait à l'UOB. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et il me dit, j'aime faire l'électricité. J'ai dit, ok, tu vas faire l'électricité, mais ne te limite pas juste à être un électricien. Les électriciens ici, ils ne sont pas très bien payés. Fais l'électricité, crée ta structure, offre tes services, déploie tes services aux particuliers comme aux professionnels et fais tout pour multiplier tes services, embauche et demain, tu deviendras une structure importante dans le domaine de l'électricité. Pourquoi pas au moment où on va ouvrir le marché public, le marché privé, on va ouvrir le marché de l'électricité au public où il y a d'autres entreprises qui pourront venir maintenant offrir du courant et de l'électricité et puis on n'aura plus les délestages de la SEG. Hein? Le jour où le marché sera ouvert, peut-être que toi, tu feras partie de ces gens-là qui viendront et qui prendront des marchés. Et enfin, le E de forme examine ta personnalité. Chacun d'entre nous, nous avons une personnalité. C'est connu, il y a les extravertis, il y a les introvertis. Tout le monde n'est pas pareil. Dans les extravertis, il y a les colériques et il y a les sanguins. Dans les introvertis, il y a les flegmatiques et il y a les mélancoliques. Pour libérer ton potentiel, tu dois être dans un environnement où ta personnalité est mise en avant. Si tu es quelqu'un de flegmatique, c'est-à-dire quelqu'un de très très lent, l'un des gros défauts des gens qui sont flegmatiques de personnalité, c'est des gens qui sont très lents. Et puis en tant que flegmatique, tu veux t'engager dans un poste de commercial. Je t'assure, ça ne va pas coller. Parce que les commerciaux, ce sont des gens qui doivent être dynamiques. Et si tu es quelqu'un de très lent, tu risques de te faire virer très rapidement. Par contre, les flegmatiques ont une force. C'est qu'ils sont très, très, très analytiques. Ils peuvent rester derrière un écran toute la journée. Pendant que le colérique, lui, ce n'est pas son truc. Le colérique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps en mouvement. C'est pour ça que les colériques font de très bons leaders. Et les flegmatiques font des gens qui sont très bons dans les chiffres. Les comptables, les experts comptables, etc. Ils sont très, très bons là-dedans. Parce qu'ils sont très analytiques et ils sont très patients. Le sanguin, ce qui le caractérise, c'est sa jovialité et son relationnel. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, quand ils entrent dans une salle, il y a plein de monde. Toi, pendant que tu es encore en train de chercher à qui tu vas serrer la main, lui, il connaît déjà tout le monde. Parce que lui, dès qu'il arrive, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va. Il glisse sa carte, tenez, je fais ceci, je fais cela. Vous pouvez avoir besoin de mes services un jour, monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Il y a des gens qui sont comme ça, ils arrivent quelque part et ils viennent, ils connaissent tout le monde. Donc, t'as dit, mais comment tu fais? Franchement, la jovialité, le relationnel, et ça, c'est les sanguins. Leur gros défaut, par contre, c'est qu'ils sont très, très naïfs. Parce qu'ils aiment tout le monde, parce qu'ils serrent les mains de tout le monde, ils se font aussi avoir par tout le monde. Oh oui, connais ta personnalité. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, connais ta personnalité. On avance, on a bientôt fini. Quatrième clé, apprends à toujours fonctionner en te fixant des objectifs pour ta vie. Se fixer des objectifs. L'objectif, c'est l'objet de notre travail et de nos efforts. Si on n'a pas d'objectif, on va nulle part. L'objectif, c'est la résultante de la vision. La vision, c'est le plan de vol. L'objectif, ce sont les différentes étapes que tu te fixes à atteindre dans l'année. Voici l'année est en train de passer. Nous sommes maintenant, la semaine prochaine, en mi-avril. Quels sont tes objectifs pour cette année? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Les objectifs au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau de ton foyer. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour tes finances? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour l'acquisition de ton terrain demain, pour la construction de ta maison? N'attends pas d'avoir un travail où tu seras bien payé pour dire « c'est là que je veux commencer à construire ». Non, commence à économiser maintenant. Même si tu dois mettre 5 000 francs de côté, tu les mets de côté. Objectif. Quels sont tes objectifs pour ton enfant? N'attends pas qu'il ait 18 ans et qu'il vienne te sortir « papa, j'ai envie d'aller à Harvard ». Tu dis « Harvard, tu es à Libreville, va à l'UOB ». Non, moi je veux faire Harvard ou bien Oxford. N'attends pas. Dépêche-toi vite de commencer à économiser aujourd'hui pour pouvoir lui donner cet argent demain parce qu'il en aura certainement besoin. Parce que si tu n'as pas cet argent demain, tu risques d'hypothéquer son avenir et son potentiel. Vous n'avez pas remarqué que les Gabonais qui ont fait des études dans ces écoles-là, quand ils rentrent à Libreville, ils galèrent pas comme toi. Dès qu'il arrive, lui, il cherche même pas. On le recrute tout de suite. Parce que derrière, il y a des parents qui ont payé un prix fort pour ces enfants-là. Amen. Oui, fonctionne avec des objectifs. Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec des objectifs. Les objectifs te permettent de rester focalisé sur la destination. Quand tu te fixes des objectifs, tu prends le temps de les écrire sur un papier et de toujours avoir les yeux rivés dessus. La question que je me suis posée, c'était pourquoi les gens ne se fixent pas d'objectifs. La première raison, c'est que les gens n'accordent pas d'importance à se fixer des objectifs. Les gens vivent au jour le jour. Ils vivent au jour le jour. La deuxième raison, c'est que les gens ne savent pas comment faire pour se fixer des objectifs parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, se fixer des objectifs. Donc, quand on parle de se fixer des objectifs, il y en a, ils sont là, ils broient du noir, ils disent, mais de quoi ils parlent, celui-là? Et la troisième raison, c'est que les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur de se fixer des objectifs trop élevés. Ils ont peur de ce que les gens vont dire d'eux. Ils ont peur de ce qu'on va penser d'eux. Quand moi, par exemple, avec mon épouse, on a décidé de commencer cette œuvre, on s'est fixé un objectif. On a eu de l'audace et on a osé. Mais il y a des gens qui ont dit, gars, quand tu te lances là, c'est non-retour, hein? J'ai dit, Seigneur, parce que c'est non-retour, on va y arriver. On va y arriver. Quand tu t'engages dans la création d'une entreprise, les gens disent, oh, toi aussi, ici, là. Il n'y a pas plus tard qu'il y a encore quelques jours, j'étais assis avec quelqu'un qui me disait, oh, gars, ta sécurité de l'emploi ici à Libreville, vraiment, fais-toi vite nommer par quelqu'un. Hein, et comme ça, tu rentres dans la fonction publique, hein, tu sais, si tu es dans la fonction publique, ton avenir est assuré. Assuré? Pour gagner quoi? 200 000, 300 000 francs par mois? Plus tard, à ma retraite, c'est ça, mon avenir est assuré. Vraiment, arrête de te fiches de ma tête, etc. Non, mais assure, dépêche-toi vite. Non, je ne rentrerai pas dans la fonction publique. Je veux faire tout d'abord pour réussir dans mon domaine. Bon, j'avoue, ceux qui sont dans la fonction publique, c'est bien quand même. Au moins, tu n'es pas comme nous, les fins de mois sont un peu incertaines parfois. Ah, c'est la vie des entrepreneurs, ça. Les fins de mois sont incertaines. La Bible nous dit, concernant les objectifs, dans le livre de Habacuc, chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Quand tu lis ce passage, il y a cinq choses que tu dois comprendre au sujet des objectifs. La première chose, il dit, écris la prophétie. C'est très important d'écrire tes objectifs. La deuxième chose, il dit, grave-les sur des tables, ce qui signifie que tes objectifs doivent toujours être à un endroit bien précis et gravés dans le roc où tu peux les voir. La troisième chose, il dit qu'on la lise couramment, ce qui veut dire que tu dois lire tes objectifs de manière très, très courante pour toujours t'en rappeler. Il y en a le 1er janvier de chaque année, ils disent bonne année. Oh, j'ai pris de nouvelles résolutions. Le 31 janvier, les objectifs sont déjà sur le matelas. Ils sont retournés dans les mêmes galères. Alors que c'est très important de prendre ces objectifs et de toujours les mettre à un endroit. La quatrième chose que Habacuc nous dit, c'est le temps est déjà fixé. Tes objectifs doivent être mesurables dans le temps, réalistes. Je me fixe tel objectif dans les 3 prochains mois. Je me fixe tel objectif l'année prochaine et pour les 5 prochaines années. Un jour, j'ai fait un entretien, malheureusement, où je n'ai pas été pris. Je cherchais du travail dans une grande entreprise et je rencontre le DRH, je rencontre plutôt le directeur de la boîte, le patron de la boîte directement. C'était ma chance. Donc, je me suis dit, il est cool en plus, il est très sympa, etc. Donc, mon entretien est déjà assuré. Et là, il me pose une question à la fin de l'entretien. Il me dit, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Dans cette boîte. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans dans cette entreprise, si vous y êtes encore? Et je lui ai répondu avec manque de sagesse, à votre place, monsieur. Il m'a regardé, il m'a fait, à ma place, vous voyez, à ma place. Il fait, c'est très ambitieux de votre part, monsieur, jeune homme. Je lui ai fait, vous m'avez demandé où est-ce que je me vois, c'est l'objectif que je me fixe. Si je me vois à votre place, ça veut dire que vous serez parti encore plus haut et j'essaie de me rattraper, là, tu vois. Et là, il me fait, jeune homme, on va vous rappeler. Merci, au revoir. Il ne m'a jamais rappelé. Et enfin, Habacuc nous dit, attends-la. Ce qui veut simplement dire que tes objectifs, lorsque tu t'en fixes, ne cours pas, ne brûle pas les étapes. Fixe-toi les objectifs et travaille et sois patient. Certainement, ils s'accompliront. Cinquième clé, construis des relations positives autour de toi. Les relations et les fréquentations que tu as dans ta vie sont des éléments qui affectent beaucoup ton potentiel. Les gens que tu fréquentes jouent un rôle très important sur ton étape psychologique et mentale. Dans la vie, Il n'y a rien de plus puissant que les relations que l'on a. Nous sommes tous interconnectés les uns avec les autres. Et c'est pour cela que si tu veux réussir dans certains domaines comme l'entrepreneuriat, tu dois développer ton relationnel. Les gens qui sont très relationnels sont les gens qui ont plus de possibilités et d'opportunités que les autres. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils savent qui appeler. Mais toi, comme tu ne connais personne, le jour où tu as un problème, tu n'as personne vers qui te tourner. Les relations, est-ce qu'on peut dire avec moi les relations? Les relations, c'est ce qu'on appelle la loi des associations dans la Bible, ou encore la loi des fréquentations. C'est un peu, hier quand on a parlé des cinq questions les plus importantes pour découvrir le but de sa vie, la question où, avec qui marches-tu dans la vie? Il y a des gens qui peuvent te créer de gros problèmes dans la vie. Et quand tu prends le temps de regarder les problèmes que tu rencontres dans la vie, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours une personne derrière qui est à l'origine de ce problème-là, les relations. Et c'est pour cela que Amos nous dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord au préalable? Les gens avec qui tu marches, tu dois t'assurer que ce sont des gens qui pensent comme toi. Ce sont des gens qui ont la même vision que toi. Ce sont des gens qui ont un potentiel similaire au tien. Ce sont des gens qui travaillent dans le même sens que toi. Les fréquentations. Est-ce qu'on peut dire avec moi les fréquentations? Fréquente des gens qui croient en tes rêves. Fréquente des gens qui croient en toi et en ton potentiel. Fréquente des gens qui se réjouissent de ta réussite et non qui la maudissent. Fréquente des gens qui te valorisent et t'encouragent. Fréquente des gens qui te conseillent et te montrent le bon chemin. Fréquente des gens qui te disent la vérité, même si elle est toujours difficile à entendre. Fréquente des gens qui prennent le temps de t'écouter quand tu as besoin de parler. Fréquente des gens qui savent garder tes secrets, des gens qui te défendent en ton absence. Fréquente des gens qui rehaussent ton estime personnelle et fréquente des gens qui stimulent ta créativité et ton envie de progresser. Amen. Fréquente ce genre de personnes. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, je t'assure, efface leur numéro de téléphone. Et puis tu vas dans la fiche contact, tu descends un peu, et puis en bas de ce contact, il y a écrit « bloquer ce contact » et bloque-le. Comme ça, quand il t'appelle, ça tombera toujours occupé. Sixième clé pour libérer ton potentiel, il nous en reste quatre. Sois productif. Est-ce qu'on peut dire avec moi « sois productif » ? Dans le mot « productif », il y a le mot « produit ». En toi, il y a des produits qui doivent sortir. Il y a des choses qui doivent sortir, des produits physiques ou des produits abstraits ou spirituels. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 15, c'est Jésus qui parle, il dit, « Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. » Dieu aime les gens qui portent du fruit. Dieu aime les gens qui sont productifs. Dieu aime les gens qui travaillent. Dieu aime les gens qui sont tout le temps en train de chercher à faire sortir ce qui est en eux. Dieu aime les gens qui sont créatifs. Dieu aime les gens qui travaillent avec discipline. Dieu aime ça. Et c'est pour cela que la Bible parle tout le temps dans le livre des Proverbes de discipline et de travail. Proverbes 12, verset 27 nous dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. » Le mot derrière, c'est le mot « travail ». Tu n'as pas remarqué que quand tu ne travailles pas, tu es frustré? Quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas travailler, qui prend plaisir à la paresse, sache que c'est quelqu'un qui est anormalement constitué. C'est quelqu'un qui a un problème. Le travail, est-ce qu'on peut dire avec moi le travail? Le travail te permet d'être productif. Sois productif. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, on a quelque chose à offrir au monde. Chacun d'entre nous, on a quelque chose à donner. Et c'est pour cela que quelqu'un hier me disait, je n'ai pas d'argent pour démarrer. Je lui dis, c'est pas grave, tu n'as pas besoin d'argent pour démarrer. Tu as toujours quelque chose à donner. Et Pierre et Jean se trouvaient un jour devant un handicapé et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Le travail. Septième clé, développe la mentalité du service. Mets-toi au service des autres. 1 Pierre 4:10 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si tu veux être capable de libérer ton potentiel, apprends à être au service des autres. Apprends à être au service des autres. Il y a un motivateur connu qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Zig Ziglar, que j'aimais beaucoup, qui a dit une phrase qui m'a toujours marqué. Il a dit, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie si tu aides suffisamment les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Si tu es quelqu'un qui sait être au service des autres, les gens sauront toujours comment te récompenser. C'est pour cela que si tu fais quelque chose gratuitement pour les autres et au travers de ce que tu fais, tu leur fais beaucoup de bien, un jour, je t'assure, les gens te le rendront d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et les grands leaders de ce monde sont des gens qui sont des serviteurs. Les vrais leaders. ce sont des gens qui sont des serviteurs. Et tu veux être un leader demain dans ton pays, dans ton domaine, dans ton activité, alors assure-toi de servir correctement les autres. Et les gens qui ont servi l'humanité, en général, regardez, ces derniers mois, ce sont des gens qui sont célébrés par le monde entier. Huitième clé, obéis à la loi de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut dire avec moi entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, dans le mot entreprendre, il y a deux mots. Le premier, c'est entrer, le deuxième, c'est prendre. Quand la Bible parle d'héritage, c'est, il est de ta responsabilité d'entrer et de prendre ce qui t'appartient. Et un entrepreneur est quelqu'un qui a su entrer dans un domaine d'activité pour prendre ce qui lui appartient déjà, ni plus ni moins. La toute première chose dont tu as besoin pour entreprendre, ce n'est pas de l'argent, mais de l'audace et une bonne dose de détermination. L'argent viendra après. L'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut dire avec moi l'entrepreneuriat? Oui, et la première motivation des véritables entrepreneurs, ce n'est pas l'argent, mais c'est leur désir de servir les autres, ni plus ni moins. Neuvième clé, avant-dernière, c'est connaître les clés du royaume pour maximiser ton potentiel. La Bible parle tout le temps de clés. Jésus-Christ en a parlé. Et les clés du royaume sont tout simplement des principes ou encore des lois que tu apprendras et qui te permettront d'optimiser ta vie, d'optimiser ton potentiel. C'est très important. Les clés du royaume. Est-ce qu'on peut dire avec moi les clés du royaume? Et il y en a beaucoup. Et quand tu lis la Bible, tu dois tout le temps être en train de chercher des clés qui te permettront d'avancer. La clé de la sagesse, la clé de la discipline, la clé du travail, la clé de l'humilité, du service, de l'amour, de la foi, le jeûne. Jeûner est une clé pour activer certaines choses. Connaître les clés du royaume. Et enfin, dernière clé que j'estime être une clé extrêmement importante, voire la plus importante, c'est cultive une intimité profonde avec la source de tout potentiel, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est le Dieu omnipotent et tu dois cultiver une intimité très profonde avec lui. Quand tu cultives une intimité profonde avec le Saint-Esprit, il te parle. Il parle à ta vie, il parle à tes situations, il te donne des idées, il te donne des instructions, etc., etc. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Et les gens qui font des exploits avec Dieu sont les gens qui cultivent une intimité très profonde avec le Saint-Esprit. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, si tu es quelqu'un qui ne jeûne pas beaucoup, si tu es quelqu'un qui n'a pas une intimité profonde avec Dieu au travers de la Bible, si tu es quelqu'un qui n'est pas dans ces choses-là, alors, je t'assure, remets-toi en question et commence à prier et avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. On a fini. Et là, j'ai essayé d'être très pratique. Dans un seul but, c'est que tout ce qu'on a entendu, qu'on puisse aller le mettre en pratique tout de suite. Qu'on puisse commencer à poser des actions tout de suite. Et ma prière, c'est que les enseignements qu'on a eus durant ces deux jours-là ne nous fassent pas juste du bien, mais que ça puisse réveiller en nous quelque chose, ça puisse réveiller en nous le tueur de géants qui sommeille en nous depuis si longtemps, et qu'on puisse se lever et dire, Seigneur, avant la fin de cette année, ma situation a changé. Avant la fin de cette année, j'entre en possession des promesses. Avant la fin de cette année, j'entre en possession de ce qui m'appartient. Amen. Je voudrais qu'on se lève, s'il vous plaît. On a pris le temps de dire tout ça, je vous assure. On a pris le temps de le faire parce que c'est très important. C'est très important. Et je crois que beaucoup d'entre nous avaient besoin d'entendre ça. Moi en premier. Moi en premier. Et je voudrais que tu élèves la voix, que tu pries. Que tu pries et que tu dises, Seigneur, je me suis rendu à ce séminaire. Je me suis rendu à la maison du bâtisseur pour écouter ta parole sur le thème libérer mon potentiel. J'ai compris qu'en moi j'avais un trésor caché et que ce trésor, le libérer, était la clé de mon bonheur. Alors je voudrais maintenant que tu pries, que tu élèves la voix et que tu, non seulement tu remercies Dieu pour la parole que tu as entendue, mais que tu lui demandes maintenant d'intervenir dans ta vie et de te donner toutes les clés dont tu as besoin pour pouvoir entrer en possession de ce qui t'appartient. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci encore pour ces moments. Merci pour tout, Père. Merci pour ces moments que nous avons partagés ensemble. Seigneur, nous avons pris le temps de le faire parce qu'il était très important de comprendre ces choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le potentiel. Toi qui es le Dieu omnipotent. Merci parce que le Dieu omnipotent que tu es, tu habites en moi. Car si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, alors tu donnes la vie à mon corps mortel. Alors tu donnes la vie à ce potentiel. Et désormais, aujourd'hui, je libère mon potentiel. Je libère mes capacités. Je libère mes aptitudes. Je libère tout ce qui est en moi. Et je te rends grâce pour le potentiel. Je te rends grâce pour les capacités. Je te rends grâce pour le trésor caché. Car tu dis, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Merci parce que je sonde. Et maintenant que j'ai sondé, que j'ai pris le temps de t'écouter, Seigneur, aujourd'hui, je suis conscient que mon futur est entre mes mains. Mon futur est ma responsabilité. Le succès est une décision. Et je dois décider de ce que je ferai de ma vie. Sinon, les circonstances de la vie, quelqu'un d'autre le fera à ma place. C'est ce que je ne veux pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prends une décision radicale, celle de prendre ma vie en main, celle de prendre ma vie et mon avenir en main, et de dire, maintenant, Seigneur, je me lève et je travaille à l'accomplissement de ta destinée dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que, Seigneur, je suis destiné à réussir et à ne pas échouer. Je suis destiné à briller et à ne pas échouer. Je suis destiné à être une lumière et à briller, Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ta paix. Merci pour ton intelligence et merci pour ta sagesse, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore pour ces moments. Merci parce que chaque personne, Seigneur, chaque personne présente ici, Seigneur, progresse, avance et Seigneur, et libère son potentiel pour la fin, pour cette année, Seigneur. Cette année est l'année de la conquête des promesses. Et cette année, chaque personne, Seigneur, qui entend cette parole entre en possession des promesses de sa vie. La personne qui écoute même cet enseignement, Seigneur, à la révélation de ces paroles, Seigneur, se lève et prend une décision radicale pour changer sa vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Père, pour ce que tu es, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire. À toi soit la louange, Père. À toi soit l'honneur et à toi soit la magnificence, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Père. Que quelqu'un acclame le Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.